RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Alors, on dit quoi ? Alors, ça n'aura échappé à personne. Hier, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Preuve, comme s'il en fallait, qu'on est encore loin de l'égalité femmes-hommes, puisque la fin du combat adviendra peut-être le jour où nous n'aurons plus besoin de célébrer cette journée. Juste un chiffre pour mesurer l'étendue du travail qu'il reste à accomplir. 300, c'est le nombre d'années, d'après l'ONU, que les femmes devront encore attendre avant de connaître un monde égalitaire. 300 ans pendant lesquels elles continueront donc de subir le sexisme, la discrimination, les violences basées sur le genre, l'exclusion sociale et économique. Ça nous promet donc encore beaucoup de journées internationales des droits des femmes. En attendant, aujourd'hui, nous avons décidé de donner la parole à trois militantes, des femmes qui œuvrent pour faire bouger les lignes et faire valoir leurs droits, pour dénoncer mais aussi pour mieux énoncer les violences dont elles sont victimes au quotidien. J'ai donc le plaisir d'accueillir en plateau Rokhaya Diallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, documentariste, essayiste, vous êtes également l'autrice du podcast Kif Taras et vous êtes une des figures médiatiques de la lutte antiraciste et sexiste en France. Avec nous également Félicité Esther Zaifman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris mais vous êtes également secrétaire du réseau international des femmes avocates. Camille Onon-Carnel nous accompagne également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice, leaduse d'opinion et fondatrice du compte Instagram Je m'en bats le clito, entre autres. Merci à toutes les trois donc de nous accompagner pour ce numéro de Alors, on dit quoi ? L'arbre à palabres de la jeunesse africaine.
Alors, on dit quoi ?
Lucie Bouteloup.
Première question qui s'adresse à toutes les trois. Encore 300 ans avant que les femmes connaissent un monde égalitaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre de l'Organisation des Nations Unies ? Il vous étonne ?
Rokhaya. Non, il ne m'étonne pas du tout. Et puis c'est un chiffre qui suppose que les progrès vont continuer à prendre la même direction. Or, l'histoire des droits des femmes et l'histoire de la conquête des droits de manière générale, c'est une histoire de flux et de reflux. Donc on gagne des droits, on subit par la suite un backlash. Il y a des crises aussi qui peuvent aussi amplifier la perte de droits, en tout cas la restriction des droits des femmes. On sait très bien que dans les contextes de guerre, les femmes sont les premières victimes. Ce sont des victimes de violences sexistes et sexuelles, mais ce sont aussi celles qui sont privées par le manque de ressources. Donc je crois que c'est une hypothèse presque optimiste parce qu'on imagine une progression, d'autant plus qu'on sait qu'avec le contexte de réchauffement climatique, les ressources vont être réduites et nécessairement ça va avoir des implications en termes de conflits et on sait que les premières victimes de conflits sont les femmes. Donc je ne sais pas si c'est même juste d'imaginer qu'en 300 ans on sera à égalité, si on est toujours là.
Qu'est-ce que vous en pensez, Camille?
Si on est toujours là, sinon c'est un qu'on débatte.
Dans 300 ans on sera plus là.
Nous c'est sûr qu'on sera plus là.
Non mais notre espèce c'est pas sûr non plus.
C'est pas encore là, ouais. La planète elle sera là. Sera bien heureuse qu'on soit plus là.
Qu'est-ce
moi,
que vous
ça m'étonne absolument
chiffre,
pas. Je trouve même que c'est très très ambitieux, 300 ans. Si on met en perspective, moi je cite toujours ce même chiffre, ça fait 5 millions qu'on est dans une société patriarcale, je vois pas pourquoi est-ce que dans 300 ans, de façon miraculeuse, on sortirait de ça. Par contre, il y a bien une chose qui est sûre, c'est que j'ai pas envie d'être à ce point-là pessimiste, notamment pour les jeunes générations, parce que je trouve que c'est quand même cruel de leur dire, franchement, vous savez quoi, c'est mort d'avance, on se doit une certaine forme de positivisme et surtout d'espoir, je pense.
Félicité Esther Zaifman, comme je le disais dans mon introduction, vous êtes avocate au barreau de Paris, mais vous êtes également secrétaire générale du réseau international des femmes avocates. Quel état des lieux vous dressez du droit des femmes dans le monde ? Il y a des avancées ou est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ?
Alors, je suis de nature très optimiste, mais je suis, s'agissant des droits des femmes et de leur lutte, du combat, je suis assez pessimiste et je suis assez inquiète. Je suis pessimiste parce que, comme l'a si bien dit Rokhaya, il y a des tas de facteurs qui sont devant nous. Il y a le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de guerres. Il y a et on a comme l'impression, ou plutôt j'ai comme l'impression que on se contente des petites avancées, alors que la réalité des droits, la grosse majorité des droits ne sont pas encore acquis.
Alors quels sont les droits justement qui sont le plus remis en question ?
De manière globale, et je parlerai plus spécifiquement de l'Afrique, même si j'y vis pas, c'est quand même le gros du réseau international des femmes avocates, c'est tous les droits qui concernent la scolarisation des jeunes filles, leur éducation sexuelle, les mariages précoces, l'excision.
À titre d'illustration, justement, lundi dernier, en Gambie, l'Assemblée nationale a commencé l'examen d'un texte de loi levant l'interdiction des mutilations génitales féminines. Pourtant, cette loi, elle était en vigueur depuis 2015. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Alors, d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce n'était pas une loi, c'était un décret du président déchu. Il n'y a jamais. C'est un décret de 2015. Mais le plus important dans cette affaire, c'est que, et là je me pose encore la question, où sont les juristes gambiens, où sont les femmes gambiennes? La Gambie a ratifié en 2005 le protocole de Maputo. Donc c'est un protocole qui est dans son bloc constitutionnel.
Justement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce protocole?
Alors, le protocole de Maputo, c'est un acte très fort de l'Union africaine, pour une fois que cette Union africaine pose des actes forts en faveur des femmes, de l'égalité, l'égalité professionnelle, de l'accès à la santé et notamment à la maternité gratuite, de l'avortement, même si pour l'instant il est limité avortement thérapeutique, mais c'est une avancée. Et quand on sait que les 54 ou 52, je ne sais jamais combien l'Afrique a de pays, 54, il n'y a que 11 pays qui ne l'ont pas encore ratifié. C'est une véritable avancée. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est une avancée, c'est que le Mali, qui ne voulait pas ratifier cette loi, des femmes se sont emparées de cette non-ratification, ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et le Mali a été condamné. Ce sont les religieux qui avaient pesé sur le gouvernement pour que cette loi ne soit pas ratifiée, notamment parce que cette disposition sur l'avortement.
Donc comment est-ce que vous expliquez justement ce recul dont on a parlé à l'instant pour...
Je crois que les religions l'excision. Prennent de plus en plus de place en Afrique, quelle qu'elle soit, que ce soit l'islam, les religions chrétiennes, notamment style... protestantisme américain prend de plus en plus de place parce qu'il n'y a pas d'offre, parce que les parents ont baissé les bras, parce que l'éducation n'est plus ce qu'elle était. Quand je parle de l'éducation, je parle de l'éducation au sens instruction, n'est plus ce qu'elle était, parce que les réseaux sociaux offrent d'autres schémas, d'autres figures. Aujourd'hui, les jeunes filles ont pour modèle ce que j'appelle les sex-influenceuses qui leur donnent l'impression de grandes réussites aussi bien sur TikTok, Facebook et autres. Et je pense que ces religions ont su jouer sur l'absence de tous ces modèles et notamment sur une psychologie très vacillante de ces jeunes filles. Alors on leur propose un Éden et en leur proposant cet Éden, il est beaucoup plus facile de leur vendre des pratiques du style l'excision quand il s'agit de la religion musulmane ou toute autre forme.
En tout cas, selon vous, le problème du droit des femmes s'explique en partie par le manque de représentativité des femmes dans les métiers du droit, notamment sur le continent. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Alors oui... Alors, dans les métiers du droit et puis dans la représentation, j'allais dire politique, exclusion faite du Rwanda, qui a quand même une assemblée nationale très paritaire où les femmes sont beaucoup plus nombreuses que. Mais est-ce que ça veut dire que le nombre fait
Le Rwanda, c'est pas le seul pays. Hein. Le Rwanda, la Namibie, c'est... l'Afrique du Sud et le Sénégal, voilà, qui sont pas si mal positionnés.
Tout ça, mais... tout à fait. Mais on se dit, il y a
mais
le
en
nombre.
Tout cas pour les avocates.
Alors pour les avocates, il y a un réel problème parce que les premières avocates en Afrique noire francophone, je mets Madagascar de côté, existent depuis les années 70.
Quel problème cela pose justement, ça, qu'il n'y ait pas assez de femmes?
Eh bien, ça pose un problème de porter la voix des femmes de manière générale. Qui mieux qu'une femme peut porter la voix parce qu'elle connaît les problèmes, parce qu'elle les vit en tant que mère, en tant que femme d'abord, en tant qu'épouse, en tant que sœur. Et surtout, ces femmes des années 70 qui sont devenues avocates comme Alice Combe, Marlise Issembe et autres, savent, ont été élevées d'une certaine manière. Elles ont pesé le pour et le contre de cette éducation. Personne ne peut porter la voix des jeunes filles aujourd'hui parce que cette représentation est moindre. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Mmh. La première femme bâtonnière en Côte d'Ivoire le sera depuis 60 ans d'existence du barreau, le sera au mois de novembre.
Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de femme bâtonnière en Côte
d'Ivoire.
Il n'y
a pas encore de femme, elle est ce qu'on appelle dauphin. La première femme avocate... la première femme bâtonnier au Cameroun l'a été du fait de la loi, parce que le bâtonnier en exercice étant décédé, elle a donc assumé, selon le texte de loi organisant la profession dans ce pays, la fonction de bâtonnier. C'est pas normal.
En France, par exemple, j'imagine que l'IVG, le droit à l'avortement volontaire, n'aurait pas pu se faire sans le concours de toutes les femmes et de toutes les associations de femmes qui ont œuvré en ce sens.
Je suis parfaitement d'accord, mais c'est une grande avancée, l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. Mmh. Mais à côté, il y a d'autres, les féminicides continuent. Les inégalités salariales continuent, les inégalités raciales continuent. Alors, c'est ce que je disais à l'entame.
Les inégalités salariales, excusez-moi, je rebondis juste, à l'échelle mondiale, le salaire des femmes est encore aujourd'hui inférieur à 30% de celui des hommes. J'étais assez étonnée en trouvant ce chiffre, je m'attendais à pire moi-même en fait. Oui.
Et je le disais à l'entame de mon propos, ne nous contentons pas d'une petite avancée. L'IVG dans la Constitution, c'est fantastique, mais au même moment qu'on inscrit l'IVG dans la Constitution, une femme décède des coups de son compagnon. Ça pose un réel problème d'abord de ce que nous entendons par droit des femmes, de comment nous menons le combat et de l'application des textes de loi.
Alors justement, vous avez aussi constaté qu'il y avait très peu de femmes sur le continent qui connaissaient leurs droits.
Oui.
Notamment dans les zones rurales.
Oui. Et ça, c'est... un énorme problème en Afrique. Et pas seulement dans les zones rurales. Pas seulement. Vous savez, en Afrique, vous avez des ministères, et je vais dire franchement, l'appellation de ces ministères m'écœure. Ministre de la femme. Non, on n'est pas ministre de la femme.
Qu'est-ce qu'il faut
dire ? Ministre de la condition féminine. Non, on n'est pas ministre de la condition féminine. Passons. Acceptons cette dénomination. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces ministres ? Je voudrais dire que j'ai regardé un peu la ministre de la famille, de la femme en Côte d'Ivoire. Elle pose des actions. Mais au Cameroun, on n'entend rien. Alors, vous êtes ministre de la femme, pourquoi ? Quels sont les textes ? Je vais vous prendre un seul exemple.
Vous voulez dire que c'est des fonctions qui servent d'alibi, finalement?
C'est des fonctions qui servent d'alibi. La femme est un faire-valoir. On dit, on a nommé une femme ministre de la femme. Mais que fait-elle pour les femmes? Je vous prends un seul exemple. En matière de divorce, nous sommes en 2024. Au Cameroun, il existe une seule forme de divorce. Le divorce pour faute. Évidemment, dans ce type de divorce, la femme sera toujours en plus mauvaise position que l'homme. Et ce, d'autant que quand il faut constater un adultère, l'adultère de l'homme se constate de manière différente que celui de la femme. Mmh. Après mon travail, je peux aller à 9 heures avec des camarades, photo, parce que je suis assise à côté d'un collègue. C'est l'adultère de la femme. Mais l'homme, il faut demander une autorisation, il faut à telle heure, comme s'il allait vous appeler. Écoute, ma chérie, je suis en train de te tromper dans tel hôtel. Tu peux venir faire ton constat du C. À un moment, on peut en rire, mais c'est très, très grave.
Félicité, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager pour la cause des femmes?
Alors, ce qui m'a donné envie de m'engager pour la cause des femmes, c'est... ma grand-mère.
Expliquez-nous pourquoi.
Ma grand-mère Marguerite, ma grand-mère maternelle, puisque je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle, qui est morte à près de 100 ans. Mais ma grand-mère et toutes ses sœurs, d'ailleurs, toutes ses sœurs, étaient très en avance sur leur époque. À cette époque-là, les grand-mères avaient une flopée d'enfants. Mais ma grand-mère et ses sœurs avaient un ou deux. Deux enfants. Et elles ont mis leurs enfants à l'école. Ce qui ne se fait pas. Ma mère, aujourd'hui, a près de 92 ans. Elle a été à l'école. Elle a été dans la banque, ma mère. Et cette éducation, parce que ma grand-mère nous a pu s'élever comme ma mère, parce que avec les voyages à droite et à gauche avec mon père, on était avec ma grand-mère. Elle nous disait toujours, ma grand-mère, en nous parlant, à nous, ces petites filles, mm-hmm. votre premier mari doit être votre diplôme.
Donc vous diriez que votre grand-mère était déjà féministe.
Ma grand-mère était déjà féministe à sa façon, à cette époque-là.
Restez avec nous, on continue de donner la parole à des femmes engagées, des battantes qui font bouger les lignes. Mais avant, on écoute une autre femme forte, c'est Alicia Keys. Vous êtes bien sur RFI. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. Is on fire sur RFI dans Alors on dit quoi, un titre qui colle à merveille avec les trois femmes en feu qui nous accompagnent aujourd'hui dans le studio. Aujourd'hui, on donne la parole à Rokhaya Diallo, Félicité Esther Zeifman et Camille Aumont-Carnel pour qu'elles nous racontent leurs combats et leurs engagements. Je vous propose maintenant qu'on aille à Abidjan où nous retrouvons Désirée Dénéo, une autre femme forte, c'est la secrétaire générale de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bonjour Désirée.
Bonjour à Rokhaya, à Camille et à Félicité.
Qu'est-ce que vous aviez prévu alors pour cette journée du 8 mars, hier?
Hier, on a organisé nous une formation avec les journalistes dans le cadre du projet Compter pour toutes qui ramène à centraliser tous les mécanismes en fait, de collecte de données, de sorte à avoir des chiffres holistiques concernant les cas de violence basés sur le genre.
Oui, parce qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'arrive pas justement à avoir des données, hein. c'est pas recensé.
Les données sont recensées au niveau du ministère de la SAB, mais ce sont des données qui ne sont pas inclusives parce qu'elles ne prennent pas en compte. Par exemple, les cas que nous avons à la Ligue ivoirienne des droits des femmes, les cas qui sont traités par le Conseil national des droits de l'homme, enfin en gros les autres acteurs qui interviennent dans la prise en charge des femmes victimes de violences. À côté de cela, nous depuis quand même 2019, on essaie de sensibiliser les entreprises concernant la perception du 8 mars. Donc hier, on était au sein de trois grandes entreprises de la place pour sensibiliser les femmes en fait sur la question des droits, notamment le harcèlement en milieu professionnel, la question du déni de ressources auxquelles sont confrontées de nombreuses femmes.
Alors, juste un chiffre, il faut dire qu'à Abidjan, entre 2019 et 2020, hein, même si les chiffres sont peut-être discutables, on a quand même comptabilisé 416 féminicides donc, qui ont été enregistrés, ce qui pose aussi la question de ceux qui n'ont pas été enregistrés. 416 féminicides, c'est colossal. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer, pour faire évoluer les mentalités?
Déjà, ces chiffres-là, il faut préciser que ce sont des chiffres qui proviennent en fait, d'une organisation de la société civile. Mais ils n'ont jamais figuré dans les chiffres en fait, fournis par le ministère de la Femme. Et pour pouvoir mettre fin à cela, c'est vraiment sensibiliser et aussi mettre en lumière la question des féminicides parce qu'elle se limite simplement aux organisations féministes. Et le ministère de la Femme n'en parle pas forcément. Les acteurs parapublics en fait, n'abordent pas forcément cette question-là.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, vous, pour la cause des femmes, Désirée ?
Moi, je pense que ça part de mon enfance. J'ai une mère qui me faisait lire déjà très jeune une si longue lettre de Mariam Abba qui vraiment moi a posé les fondements de mon engagement. Et aussi ma mère, par sa fonction d'enseignante du primaire dans des quartiers, on va dire, populaires, a été confrontée à des cas de mariage forcé. Moi, je me suis liée à une de ses élèves qui était mariée de force. Donc, c'était vraiment une injustice pour moi qui a marqué mon enfance, mon adolescence. Et à un moment, je me suis orientée, moi, dans ma recherche sur l'accès à l'éducation des petites filles. Et cela m'a amenée aujourd'hui sur la question des violences faites aux femmes.
Alors, votre structure, elle existe depuis 2019. Comment sont perçues vos actions par les citoyens ivoiriens? Est-ce que vous avez déjà été la cible d'intimidation pour vous décourager dans vos actions?
Bah, des intimidations, moi j'en subis tout le temps. Ça dépend des dossiers en fait qu'on a. Quand c'est une personnalité publique ou c'est, quand c'est une personne en fait qui est en lien avec une grosse famille en fait ici, on reçoit des menaces. Moi j'étais sujette à des menaces de mort il y a 3 mois. De cela j'ai porté plainte. Il y a la violence en ligne parce que on est aussi activiste, on occupe l'espace numérique. Donc c'est beaucoup d'insultes, d'injures en fait qu'on reçoit parce qu'on est féministe. C'est soit on est là pour soi-disant remettre en question les valeurs dites africaines. On est à la solde en fait de l'Occident pour changer les mœurs en fait.
Donc il faut pas se laisser impressionner. Rokhaya Diallo, une réaction au témoignage de Désirée. Vous aussi, vous avez été la cible de nombreuses fois d'attaques, de menaces de mort, de viols. D'ailleurs, en février dernier, des experts de l'ONU ont exprimé leur inquiétude face aux intimidations que vous subissez régulièrement. Cette violence qu'il faut affronter, ça fait partie du boulot d'activiste?
C'est malheureux, mais à partir du moment où une femme prend la parole publiquement, elle est exposée à des cyberviolences, à des menaces, des tentatives d'intimidation pour simplement l'inviter ou la pousser à sortir du champ public. Ce qu'on sait, selon Amnesty International, c'est que les femmes, de manière générale, sont plus cyberharcelées que les hommes quand elles prennent la parole publiquement, et que parmi ces femmes, les femmes non blanches ont 34% de plus d'agressions en fait sur les réseaux sociaux, et les femmes noires 84%. Donc évidemment, le fait de cumuler ces positions, en fait, d'être au croisement de différentes oppressions, ça, évidemment, ça pousse au cyberharcèlement. Il faut dire que moi, j'ai fait un des premiers procès de personnalité publique contre le cyberharcèlement en 2014, en 2013 même, en fait, et c'était l'objet de mon documentaire qui s'appelait Les réseaux de la haine. Et à l'époque, le terme même de cyberharcèlement n'existait même pas. Et c'est vraiment consubstantiel, en fait, de mon existence publique. Il n'y a pas un moment où j'ai pris la parole publiquement sans que, systématiquement, ne se soit opposé à moi des insultes, des menaces.
Comment on se prépare à ça, justement?
En fait, on ne se prépare pas, on n'est pas prêt. Honnêtement, moi, je n'imaginais pas cela. Je savais que mes propos étaient pas forcément bienvenus dans tous les foyers de France et de Navarre, si je puis dire. Mais je n'imaginais pas le degré de haine auquel ça pouvait faire face. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la haine, notamment du fait que certains médias, je pense à mes réseaux sociaux, je pense à X, anciennement Twitter, depuis que ça a été repris en main par Elon Musk, il y a vraiment une multiplication de la violence et c'est assez spectaculaire de voir à quel point on est brutalisé.
Camille, qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense absolument la même chose. J'en pense qu'à partir du moment où on décide d'aborder des sujets qui plus est sont des sujets tabous, qui plus est sont des sujets qui vont déranger d'un point de vue de l'intime et qui vont faire en sorte que les personnes se remettent en question en se disant « mais du coup, est-ce que je fais plutôt partie du problème ou est-ce que je fais plutôt partie de la solution ?» La première réaction avant de se remettre en question, c'est de renvoyer une énorme forme de violence comme si, en fait, c'était le prix à payer du dérangement de la conscience qu'on avait pu provoquer. Moi, sur les sujets de sexualité, c'est vrai que je n'ai jamais reçu de message violent jusqu'au moment où j'ai dévoilé mon identité. Donc, il y a vraiment un avant après. Avant que je dévoile mon identité, j'étais presque considérée comme un conte qui faisait de l'humour. On me mettait dans la lignée des VDM et des Nuits sans folie. Et après,
donc là, vous faites référence à votre compte Instagram, je m'en bats le clito.
Absolument. Et à partir du moment où je dévoile mon identité, ça prend une toute autre dimension.
Votre identité de jeune femme noire.
De jeune femme noire qui, à ce moment-là, avait le crâne rasé. De jeune femme noire qui n'a pas fait d'école de com et qui, en fait, à la base, fait complètement autre chose, qui s'est lancé là-dedans de façon viscérale, et parce que j'ai eu le besoin de ça. Donc quand je raconte un petit peu tout ça, je vois bien comment il y a des personnes qui d'un seul coup se disent merde, globalement on peut la mettre dans aucune des boîtes et dans aucune des étiquettes qui nous arrangent, et donc il faut créer quelque chose d'autre. Et avant de créer ce quelque chose d'autre, ou juste tout simplement de foutre la paix aux gens, il y a une grande forme de violence qui arrive, et je remarque exactement la même chose, quoi. Et c'est du fait que ça dérange, qu'on se dise, en plus moi c'est des sujets liés à la sexualité, donc il y a une dimension intime. Ce qu'on me renvoie constamment, c'est le fait de vouloir sur la place publique rapporter des propos et rapporter des réalités qui font partie du plus intime. Donc il y a aussi une dimension, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle l'intimité. Et pourtant, je vois bien aussi à quel point, et surtout à quel point ça a avant tout une fonction libératrice.
Rokhaya Diallo, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. À quel moment vous avez pris conscience que vous n'aviez pas les mêmes droits que les hommes ?
Alors, j'en ai pris conscience très tôt, en fait, à deux moments différents. Quand j'étais petite, enfin, j'ai un petit frère, on est deux, donc on a 3 ans d'écart, et ma maman m'a associée à l'aide des tâches ménagères quand j'avais une petite dizaine d'années, voilà. Et en fait, moi, j'ai une très bonne mémoire, donc quand j'attendais que mon petit frère ait le même âge que moi pour voir ce qui allait se passer, et évidemment, il ne s'est rien passé pour lui. Et donc, je suis allée voir ma mère en lui disant « Maman, ce serait bien qu'il nous aide, etc. » Et ma mère m'en parle encore aujourd'hui en me disant « Tu m'as vraiment fait prendre conscience du fait que il fallait que ton frère soit aussi impliqué dans les tâches domestiques. Il n'y a pas eu de résistance particulière, mais vraiment une impulsion de ma part. »
Donc en fait, c'est vous qui avez éduqué votre mère d'une certaine façon au sexisme que vous subissiez, donc au sexisme
dans le foyer,
général.
En fait. En tout cas, dans le fait que dans le foyer, c'était pas juste que j'en fasse plus que mon frère au moment où il atteignait mon âge. Et le deuxième moment, c'est vraiment au lycée, en classe de seconde. Moi, j'avais pris l'option sciences économiques et sociales, et on avait des cours sur la discrimination sur le marché du travail. Et j'avais été très très choquée en fait à ce moment-là de voir à quel point, malgré le fait qu'on fasse des études, on était exposé à des discriminations. Et je veux revenir sur quelque chose que vous disiez par rapport aux écarts de salaire. On parle toujours, pour mesurer en fait le décalage entre les hommes et les femmes, du travail salarié, mais on ne mesure pas le fait que les femmes accomplissent encore aujourd'hui 70% des tâches domestiques en France, et parfois plus ailleurs. Et c'est un travail qui n'est pas rémunéré, mais qui est extrêmement important. Et il y a des femmes qui sont par exemple des aides pour des femmes agricultrices, des femmes de commerçants, etc., dont le travail n'est pas comptabilisé ni salarié. Et si on tient compte de ce travail-là et du fait que ce travail n'est pas rémunéré, les écarts sont encore beaucoup plus importants.
Sans compter les femmes qui sont obligées de s'arrêter pour des raisons domestiques, familiales, notamment pour l'arrivée d'un enfant, elles s'arrêtent en moyenne 4 fois plus. Enfin, 4 fois plus déjà, ça me semble même pas très représentatif que les hommes pour élever leurs enfants.
Et élever ses enfants, c'est du travail. Donc elles s'arrêtent de travailler en étant rémunérées, mais elles continuent à travailler pour la survie du foyer.
Et puis, quand vous avez grandi, la question du racisme, elle s'est imposée à vous. Pourtant, dans votre enfance, ça n'avait pas été un sujet. Hein.
Non, parce que j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement très multiculturel. J'ai vécu ensuite en banlieue à la Courneuve, dans Seine-Saint-Denis. Donc la question du fait d'avoir des parents, en tout cas immigrés, c'était pas du tout un sujet. On était plein à avoir des parents qui venaient d'Asie, d'Afrique du Nord, des Caraïbes ou d'Afrique subsaharienne comme les miens. Donc le sujet n'était pas là, et c'est vraiment dans le cadre de mes études, en avançant, que je me suis retrouvée dans une position où j'étais la seule noire et que j'ai fait face à des questions que je m'étais jamais posées quant au fait que j'étais française. Et ça m'a beaucoup frappée. Puis j'étais aussi une jeune femme assez attentive aux médias, et la manière dont on parlait des personnes non blanches dans les médias m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup frappée, notamment dans des contextes de violence policière. Et après la mort de Ziad Bena et Bona Traoré à Clichy-sous-Bois en banlieue parisienne en 2005, ce sont des adolescents qui étaient poursuivis par la police sans raison et qui en sont morts. Et en fait, on parlait d'eux comme de personnes qui méritaient de mourir, et ça m'a touchée, parce que je me suis dit que ces jeunes adolescents auraient pu être mes petits frères, mes petits cousins, et j'ai vraiment eu envie de porter une parole différente de celle que l'on entendait habituellement.
Alors, vous avez eu envie de faire des études de droit. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette voie ?
Alors, le choix, c'était vraiment un choix par défaut. Je trouvais que c'était la voie qui permettait de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire plus tard. Mais je me suis prise de passion pour les droits fondamentaux, pour la Constitution, pour les libertés publiques. Et même si j'en ai pas fait mon métier, c'est vraiment un socle de réflexion qui est toujours celui que je mobilise encore aujourd'hui quand il s'agit de défendre les droits des femmes, les droits des personnes qui sont victimes d'oppression diverses et multiples. Et c'est vrai que vous avez mentionné, par exemple, tout à l'heure, le fait que la liberté d'avoir recours à l'avortement soit entrée dans la Constitution. Et c'est vrai que cette question-là, c'est une question fondamentale. Connaître le droit, connaître la valeur des droits et la hiérarchie des normes. Vous avez parlé du bloc de constitutionnalité tout à l'heure. Donc le fait que des droits soient garantis par des textes qui ont une valeur constitutionnelle, eh bien, nécessairement, ça protège davantage les femmes. Mais ça signifie aussi que les élections auxquelles on participe peuvent porter au pouvoir des personnes qui ensuite vont nous opposer des restrictions. Et ça, il faut vraiment bien le penser. On parle beaucoup de la montée des extrêmes en Europe en ce moment, en France en particulier. Je rappelle juste que sur le vote en fait du changement de la Constitution, les députés qui n'ont pas voté pour étaient des députés de droite et d'extrême droite. Donc l'extrême droite, c'est pas seulement une une extrême droite qui est xénophobe, ce qui est déjà très très grave, c'est aussi une extrême droite qui est hostile aux droits des femmes.
Vous évoquiez tout à l'heure la représentativité des femmes noires dans les médias. Vous avez travaillé à la radio, chez RTL, Le Mouv', mais aussi à la télévision, chez Canal+, la chaîne parlementaire, LCI et même C8 auprès de Cyril Hanouna. Quel regard justement vous portez sur cette place qu'on accorde aux femmes? On est quand même très très loin des standards américains.
Ah, tout à fait. Moi, quand j'ai commencé à faire des débats à la radio, à la télévision, c'était en 2009. Et à l'époque, j'étais systématiquement la seule femme autour de la table à débattre comme éditorialiste des sujets d'actualité politique. Et évidemment, en plus d'être la seule femme, j'étais à l'époque souvent la plus jeune et puis aussi la seule personne non blanche.
Ouais, le cumul.
Et voilà, c'est très très compliqué de prendre la parole. J'étais évidemment 10 fois plus interrompue que toutes les autres personnes. Et puis j'avais besoin de vraiment démontrer plus de qualité d'analyse que mes confrères masculins plus âgés, parce que il y avait aussi une crédibilité qui n'était pas perçue a priori. Donc c'était vraiment difficile simplement d'être crédible et de prendre la parole et de l'affirmer. Ça m'a demandé beaucoup beaucoup de force.
Vous dites que vous aviez le sentiment d'être presque un alibi, quoi.
Bah, disons que je m'interroge toujours, parce que ça fait 15 ans que je fais ça maintenant. On n'est toujours pas si nombreuses que ça, en fait, à être éditorialiste en France, en tout cas pour ce qui est des femmes noires et des femmes non blanches de manière générale. Donc moi, je ne veux pas être un alibi et je tiens vraiment à ce que les générations suivantes prennent leur place. Mais j'ai le sentiment que les milieux médiatiques ne sont pas si ouverts qu'ils le prétendent et que finalement, en 15 ans, les progrès sont là. Mais je parle vraiment, parce qu'il y a des gens qui présentent des émissions qui les animent, mais des gens qui font de l'opinion et qui vraiment analysent la France telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça qui ne sont pas blancs. Et je trouve que ça nous prive d'une perspective importante.
Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut repasser au quota? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les lignes?
Alors moi, ce que je fais, c'est que je forme des gens. J'ai créé une école de prise de parole en public pour former les jeunes générations à la prise de parole en public, parce que je refuse de partir sans transmettre tout ce que j'ai appris. Et parfois, je l'ai appris dans la douleur. Mais je pense qu'il faut vraiment faire du lobbying, en fait. Mais il faut être dans les instances aussi, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au manque d'avocats et d'avocates, de femmes avocates. Je pense que la question qu'on peut se poser, c'est qui dirige les médias aujourd'hui, qui dirige. Et je ne parle pas seulement des milliardaires, je parle des gens qui sont rédacteurs en chef ou rédactrices en chef, des personnes qui sont vraiment à des positions où ils peuvent faire des choix, ils peuvent effectivement ouvrir les espaces. Et aujourd'hui, ça reste non seulement monocolore, mais socialement très monolithique. Ce sont des gens qui sont aussi issus des mêmes milieux sociaux. Et ça, c'est aussi important de le souligner.
Je vous pose la même question qu'a Félicité. Quelles sont les femmes, vous, qui vous ont inspirée?
Alors, la femme qui m'a inspirée le plus, c'est évidemment ma mère. Il se trouve que, voilà,
on
c'est
reste
très
à chaque
simple.
Fois dans la famille.
Bien sûr, c'est l'inspiration de proximité. Je trouve que c'est important de mettre en lumière les femmes qui n'ont pas forcément eu accès à une certaine notoriété. En tout cas, ma mère, voilà, pour moi, elle a une très grande notoriété, évidemment. Mmh. Et je le dis parce que c'est une femme immigrée, ma mère, et qu'on parle toujours des immigrés comme une espèce d'entité abstraite. Les immigrés sont des personnes, et 50% des personnes qui immigrent sont des femmes. Et quand, par exemple, on fait des lois très, très dures contre l'immigration, ça affecte une grande partie des femmes qui sont non seulement précarisées, mais qui sont en plus privées de ressources pour se défendre contre les violences qu'elles peuvent subir. Et donc ma mère, je la considère comme une femme extrêmement inspirante, parce qu'elle a fait preuve d'un courage en tant que femme de quitter son pays, de s'installer dans un autre pays, donc avec mon père évidemment, de créer une famille dans une culture qui n'était pas la sienne, dont je trouve qu'on ne la salue pas suffisamment. Ce type de courage, ce type d'aplomb, en fait, c'est un genre d'aplomb qui n'est pas vraiment célébré. C'est vraiment un esprit très très aventureux qui m'inspire énormément.
Et puis vous me parliez aussi d'Angela Davis.
Angela Davis, évidemment, parce que c'est une femme qui est connue pour avoir été persécutée par son pays, qui a été prisonnière politique dans les années 70. Mais on la connaît surtout pour ça. Il se trouve qu'elle a eu 80 ans le 26 janvier dernier, que j'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois dans ma vie, et que c'est une femme qui n'a jamais cessé de combattre et qui est de toutes les luttes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Angela Davis, 80 ans, est végane. Elle a une vraie réflexion sur la question des droits des animaux. Elle travaille aussi sur la lutte contre le complexe militaro-industriel qui est celui qui nourrit les prisons. Elle travaille pour les droits de toutes les femmes, pour les droits des femmes LGBTQIA, enfin, elle a une vision très internationale. C'est une des voix qui, depuis longtemps, porte la force de la libération du peuple palestinien. Donc voilà, elle m'inspire aussi pour cette raison, parce qu'elle est très, très, très moderne.
Très moderne. Il faut continuer à se battre. Ne rien lâcher, donc, pour faire avancer le droit des femmes. On continue à en parler dans quelques instants, juste après ce qui pourrait être un hymne pour les femmes debout, les femmes fortes, Stand Up par Cynthia Erivo. Restez avec nous, vous êtes bien sûr RFI.
Come on back, peaceful. Whoa. in her.
I'm gonna be for your dad. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it.
I've made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom?
Paratum.
Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separation.
Stand Up par Cynthia Erivo sur RFI dans Alors on dit quoi ? Je suis toujours en compagnie de Rokhaya Diallo, Félicité Esther Zeffman et de Camille Aumont-Carnel, trois femmes militantes et inspirantes qui se battent pour faire bouger les lignes et parvenir à plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et il y a du boulot. Le sexisme se niche partout, jusque dans la langue française. C'est un peu ce que vous avez constaté, Camille Aumont-Carnel. Vous vous êtes rendu compte très jeune à l'école pendant un cours de français. Racontez-nous.
Oui, grand moment. Camille Aumont-Carnel mesure 1m10, elle est en CP et puis elle doit conjuguer une phrase dans laquelle c'est un exercice où il y a un groupe et donc il y a, je crois, 5 femmes et un homme. Et puis moi, je conjugue avec la majorité qui l'emporte au féminin. Et je me souviens très bien de cette prof qui me dit « Ah bah c'est super que Camille elle ait fait la faute parce que ça permet d'illustrer la règle du masculin l'emporte sur le féminin ». Et depuis ce jour-là, c'est vrai que je suis en guerre contre cette langue qui est pourtant ma langue maternelle. Et j'ai refusé. Ce jour-là, j'ai refusé moi cette phrase qui en plus de ça n'a jamais été présentée avec quelconque notion de nuance ou aucune prise de perspective, aucun compartimentage qui a été fait en nous disant bah voilà, c'est la langue française, mais ça veut pas forcément dire qu'en fait dans la vie de tous les jours c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on raconte derrière en fait dans la cour de récré à des petits garçons qui vont taper, racketter des filles ou qui vont faire preuve de sexisme, on leur dit quoi? Ou qu'est-ce qu'eux peuvent dire? Ben en fait, pardon, mais nous, ça fait 10 ans qu'on nous dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, quand je vulgarise en disant, en fait, le sexisme est une matière à l'école qui est institutionnalisée, c'est presque le cas. Et donc, depuis ce jour-là, c'est vrai que j'ai un rapport à la langue française qui est de l'ordre de l'invention, qui est de l'ordre de... Ben, en fait, je ne vais pas forcément attendre qu'on me fasse ou qu'on nous fasse une place au sein de cette langue-là. Mais l'enjeu est plutôt de l'apprendre et d'ensuite être force de proposition pour que d'autres personnes puissent en faire autant. Mais
est-ce que vous diriez que à cet âge-là, quand vous avez donc rencontré ce professeur de français face à la violence de ses propos, ça a fait naître chez vous une conscience féministe ou elle était déjà là ?
Non, elle était déjà là. C'est marrant quand souvent on nous pose la question du déclic. Alors moi, la notion du déclic, en fait, j'ai pas le choix. Je suis une femme qui plus est une femme non blanche, une femme noire. Donc mon combat contre le sexisme et mon combat contre le racisme, il est un peu marqué sur ma tronche. Et j'ai toujours été féministe. Par contre, le sujet, c'est plutôt le changement d'échelle. Moi, c'est vrai que quand je crée ce compte Instagram en 2018, je suis à mille lieues de m'imaginer la portée que ça allait avoir. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai un besoin viscéral d'aborder cette thématique-là. que j'ai envie, que c'est de cette façon-là que j'exprime une certaine forme de colère et une certaine forme de non-représentation de mon intimité, de nos intimités.
C'était quoi l'idée justement de la création de ce
l'idée,
conte
la vraie, même, vous savez quoi, je vais vous raconter la vraie anecdote. Ça fait, à ce moment-là, ça fait octobre 2018, je finis mes études, moi, de gastronomie en juin, juillet.
Chez Ferrandi, une prestigieuse école,
école
à Paris.
École qui forme le gratin des meilleurs chefs de notre nation. Et j'ai été formée, moi, par tous ces grands chef triplement étoilé au guide Michelin. Et donc, je finis de faire ces études. Je pense que je digère toute la violence que j'ai pu voir ou que j'ai même pu subir dans ce milieu-là. Et je commence à réfléchir à un sujet qui, moi, m'a toujours intéressée, qui sont les expressions de toutes les langues. Parce que moi, j'ai grandi dans plusieurs pays. Donc, je parle anglais, français et espagnol.
Moi, vous avez grandi dans 4 pays différents.
J'ai grandi dans 4 pays. Donc, je suis née au Niger. On est resté 5 ans. Ensuite, on a déménagé en France. Ensuite, en Espagne et ensuite à Madagascar. Tout ça pour le travail de ma maman. Et je me rends bien compte que j'ai ce réflexe et peut-être cette urgence à aller me réfugier dans chacune de ces langues, dans les espaces dans lesquels je me sens le moins insultée. Et à ce moment-là, je comprends qu'en fait, la langue espagnole est une langue qui est très riche et très dense, mm-hmm. De par le nombre de propositions, d'expressions qui sont également proposées. C'est une langue dans laquelle le vulgaire est pensé pour qu'il soit aussi féminin. Par exemple, pour dire « ça me casse les couilles », on dit « me toca los cojones », mais existe depuis toujours « me toca el coño », que l'anglais a une dimension... Qui est l'équivalent féminin, mm-hmm. et on retrouve la racine latine du mot con, au passage. Je me rends compte que l'anglais est une langue dans laquelle je me sens aussi assez à l'aise parce qu'il y a une dimension neutre qui amène une certaine forme d'inclusion et d'inclusivité que moi je trouve très intéressante. Et en fait, le français, on est encore sur le masculin, l'emporte sur le féminin. Quand on fait un petit état des lieux, on se rend compte que les insultent soit les mères, soit les femmes, soit les prostituées, soit le sexe des femmes. Donc en fait, il y a un vrai sujet. Et quid de tout ce qui est induit quand on va sur le terrain des règles et des menstruations, quand on parle de protection hygiénique, en fait, on est à deux doigts de les inscrire et de les mettre au même rayon que les éponges et que, en fait, les brosses à chiottes, quoi. Donc je me dis, c'est problématique. Quand on dit être indisposé, non, on n'est pas indisposé. C'est cette société qui ne prend pas en considération les besoins physiologiques des personnes menstruées qui nous indispose. C'est dans ce sens-là que ça marche. Mm-hmm. Et donc, je me dis, quid de la langue, et je lance le compte Instagram sur un coup de tête parce qu'en fait, j'ai 4 potes qui sont en train de décuver, 4 hommes, 6 hétérosexuels, hétéroromantiques qui racontent à peu près n'importe quoi et qui s'échangent des conseils sur comment faire jouer une femme. Ça dure 3 heures. Il n'y a rien à retenir de cette conversation. à part l'audace qui les caractérise et qui est vraiment catastrophique. Et je me souviens m'être dit, ouais, les frérots, c'est pas possible, en fait, vous êtes à côté de la plaque. D'avoir essayé de trouver du contenu digeste pour eux.
C'est-à-dire qu'ils étaient à côté de la plaque sur le fond, mais aussi sur la forme.
Ah, mais non, mais surtout sur le fond, sur la forme. Je me souviens m'être répété pendant 3 heures, ils sont tous sexuellement actifs depuis plus de 10 ans, comment c'est possible? Je comprends aussi à ce moment-là qu'en fait, la notion de performance, elle n'est pas que du côté masculin, qu'il y a aussi une notion de performance du côté féminin, et que, ou du moins, enfin, des personnes qui se genrent ainsi, et qu'en fait, la notion de simulation, qu'en fait, pour eux, c'est complètement quelque chose d'inexistant, ou alors non, mais nous, pas du tout, et on est vraiment sur des conseils de l'ordre, mais si en fait, tu mets tes doigts comme ci, comme ça, là, c'est sûr, tu vas voir, la meuf, elle a genre 15 orgasmes, et moi, je suis juste là en train de me dire, bah non, du coup, je crois pas, c'est-à-dire que même nous, en un week-end de masturbation, on se connaît par cœur, on n'y arrive pas, donc vraiment, rester humble, cher. Et donc, je lance le compte Instagram en me disant, en fait, ça m'a énervé, je m'en bats le clito, et je punch, et je pense
je m'en bats le clito, qui était le pendant de je m'en bats les couilles, en fait.
Qui est le pendant de je m'en bats les couilles, mais sans la dimension reproductive. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai pendant de je m'en bats les couilles, si on reprend d'un point de vue anatomique, ça serait je m'en bats les ovaires. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de me réapproprier cette expression avec une dimension de plaisir. Et dire je m'en bats les clito, c'est mettre en avant cet organe-là qui à ce moment-là, bon, c'est toujours le cas, mais quand même un peu moins.
C'est quand même un peu violent, hein.
De dire je m'en bats le clito ?
Bah les deux d'ailleurs, je m'en bats le clito comme je m'en bats les couilles. Enfin, je veux dire, c'est
pas violent, c'est vulgaire. C'est différent. La vulgarité a toute sa place et je pense qu'elle est très importante, et elle est encore plus importante quand on explique aux femmes et aux filles qu'elles peuvent s'en emparer, qu'elles peuvent être vulgaires et que ça peut être une des bonnes formes d'expression de la violence qui du coup ne sera pas physique.
Alors, vous avez le sentiment qu'il y a encore beaucoup de tabous aujourd'hui autour des mots de la sexualité?
Moi, j'ai utilisé ce prétexte de la langue parce qu'en fait, ça permet de mettre une certaine distance et du coup, ça gêne moins. Mm-hmm. Parler des expressions, c'est pas la même chose que de parler de ce qui se passe dans le lit des gens, mm-hmm. Ou de ce qui se passe dans leur culotte. J'ai l'impression que oui, il y a encore énormément de tabous. On est aux prémices d'une forme de détabouisation, moi, que j'espère mainstream, et du moins, c'est ça, moi, ce que j'essaie de faire. C'est une forme de mouvement et de prise de parole et de création et de production qui pourrait toucher un maximum de personnes, même les personnes qui part du principe qu'elles ne sont soi-disant pas féministes. Oui, il y a énormément de tabous, mais en fait tous. C'est-à-dire qu'on est encore au stade où on part du principe que les règles c'est sale. On est encore, enfin là c'est vraiment le béaba. On part encore du principe que
le sale c'est une idée encore véhiculée par le sexisme.
C'est une idée qui est véhiculée par le sexisme. C'est une idée qui est véhiculée aussi par une industrie pornographique qui prend quand même beaucoup de place. Moi, je dis toujours la même chose. Je dis en fait la saleté ça n'existe pas en matière de sexualité, outre tous les aspects qui sont liés à une forme vraiment d'hygiène, mais tout ce qui est fluide, le corps, les poils, tout ça, ça n'a rien à voir avec la saleté, ça s'appelle juste la nature humaine. Donc moi, le biais que j'ai pris à travers la langue, c'est vraiment comment est-ce qu'en fait, petit à petit, je peux placarder le feed d'Instagram avec des punchs qui sont des phrases courtes et impactantes qui peuvent se lire en moins de 2 minutes, parce que l'idée, c'est pas de prendre... Moyenne d'attente et d'attention sur les réseaux sociaux, c'est 3 secondes à peu près par poste. Donc en fait, l'enjeu, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je prends le moins de temps possible aux gens, mais que je fais sentir à ces centaines de milliers de femmes et à toutes les autres qu'en fait, elles sont pas seules. Et la notion de la normalité revient toujours au centre du débat et au centre des échanges. C'est des centaines et des centaines. Moi, je reçois 200 messages par jour à peu près depuis 6 ans. Et ce qu'on me dit toujours, c'est merci de m'avoir fait comprendre que j'étais normale.
Mmh. Ouais, avec le principe de sororité, c'est important ça.
Avec le principe de sororité, avec le principe aussi de vulnérabilité. Moi, c'est comme si dévoiler ma vie sexuelle en temps et en heure à visage découvert devant la France et Navarre entière, comme c'est Rokhaya, il y a une dimension qui peut être apparentée à une forme de prise de risque. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je le prends et c'est pas du tout comme ça que je le vis. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intime, et quand moi je fais des posts sur les pertes, les menstruations, le jean taché ou l'épée vaginaux, il y a une dimension qui est de l'ordre. En fait, ça parle tellement à tout le monde et ça arrive tellement à tout le monde qu'il n'y a rien de vulnérable et il n'y a rien de prise de risque là-dedans, vu qu'en fait, ce que je dis, c'est ce qu'on vit à peu près tous et toutes.
En quoi c'est si important de trouver les bons mots, bien dire, c'est déjà agir, c'est déjà militer?
Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est le titre de la collection « Dire, c'est agir ».
Du dernier ouvrage que vous avez fait paraître.
Absolument, « Les mots du cul » aux éditions Le Robert.
Voilà.
On ne peut pas abattre des tabous dont on ne parle pas. Je pense qu'une des grandes tentatives linguistiques de cette société patriarcale a été à un moment donné de ne pas nous donner les expressions pour qu'on puisse parler de nos réalités. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a une trend, il y a une tendance où en fait on se moque de toutes ces filles qui font, quand on parle entre nous sur WhatsApp, on s'envoie des vocaux qui durent 15 minutes. Et en fait, ce qu'il faut, et on dit, oh là là, en fait, elles savent pas communiquer sans faire des longues phrases, en fait, elles savent pas faire des audios, elles font des podcasts. Ce qu'il faut comprendre avec ça, et notamment quand on parle de sexualité, c'est qu'en fait, il n'y a pas les expressions qui vont avec nos réalités. Et donc, on se retrouve à faire des phrases à rallonge et très très vite dans la conversation il y a une amie qui dit non mais meuf laisse tomber je vois très bien de quoi tu parles. Et bien en fait si on voit tout très bien de quoi on parle en termes de sensations, en termes de réalité, trouvons les mots pour en parler et ce de façon collective. Moi la dimension linguistique que j'ai c'est d'un seul coup rien n'est tabou si on se rend compte que ça arrive à tout le monde. Mmh. Et donc l'enjeu de proposer des expressions qui illustrent des réalités communes, ça permet déjà de pouvoir en parler, ça permet de pouvoir se dire bah finalement sur cet aspect là je suis presque intouchable parce que finalement c'est moi mais comme ça peut être une autre, ça permet de sortir de cette obsession avec le besoin d'être normal, sachant que la normalité en matière de sexualité n'existe pas. Et ça permet tout simplement aussi de se dire bah écoutez, il y a une démarche qui est peut-être moins violente, qui peut être perçue comme moins frontale, qui est celle de la langue. Et puis avec la langue, il y a aussi un enjeu de c'est quoi l'après. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma formation dans le milieu de la gastronomie. Le premier truc qu'on nous apprend, c'est gérer un stock avec cette dimension de réassort. Il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui restent, il y a des choses qui doivent être là tout le temps. Et moi, j'ai un peu ce même rapport avec la langue où je me dis, il y a des expressions qui doivent partir parce qu'elles sont problématiques. Ça ne veut pas dire que ce qu'elles veulent dire l'est forcément. Par contre, notre responsabilité, c'est de trouver une autre expression qui est
ni grossophobe. Donnez-nous un exemple.
Bah, par exemple, les règles. Moi, je me suis amusée à les renommer les irrégulières. Ça peut paraître assez banal comme ça, mais il y a tout. En fait, pour beaucoup de personnes, la notion de régularité dans le cycle menstruel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, visibiliser aussi ce processus physiologique-là, tout en disant il y a une dimension qui est irrégulière, c'est quelque chose aussi qui fait du bien. La langue est un terrain de jeu, et c'est aussi un terrain d'émancipation, un terrain d'ouverture de liberté. Et on peut
peut-être. Et un terrain de pouvoir.
Et un terrain de pouvoir, absolument.
Camille, les auditeurs pourront vous retrouver la semaine prochaine sur le continent. Vous serez à Douala et à Yaoundé.
Exactement,
pour une semaine.
Du 14 au 20 pour aller faire des prises de parole et des interventions de santé sexuelle et de santé reproductive dans des instituts et dans des établissements scolaires français camerounais.
Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Je suis certaine que vos parcours vont inspirer la nouvelle génération. Merci aussi à Beverly Santou qui m'a aidé à la préparer et à Olivier Roux à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.